Et on retrouve tout de suite Kabbalat Shabbat, une émission qui vous est présentée par Bernard Aboif.
Bonsoir à tous, Bernard Aboif au micro. On se retrouve comme chaque vendredi après-midi pour Kabbalat Shabbat, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et nous sommes en ligne tout de suite avec Rav Eli Lemel. Bonsoir, Shabbat Shalom.
Bonsoir et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, Rav Eli Lemel. Alors, on va, comme on le fait chaque semaine, parcourir avec vous la paracha de la semaine, donc ce passage qu'on lit dans nos communautés chaque samedi. Et on est arrivé à Emor. Emor donne un enseignement au Cohen qu'il doit enseigner à son fils les lois de la Kehouna, les lois de qu'est-ce que c'est que d'être un prêtre, etc. Or, nos maîtres font remarquer que la Torah a horreur d'avoir ce qu'on appelle des mots en trop. Ça n'existe pas. Donc ça pouvait très bien entrer dans l'enseignement d'éduquer ses enfants. Et là, vous y voyez tout un enseignement sur la façon dont nous, comme d'habitude, c'est toujours comme ça avec la Torah, comment nous, on doit parler à nos enfants. Alors, je vous écoute.
En effet, on est dans une paracha. Alors, cette paracha, au début, démarre par toutes ces lois que l'on donne, qui sont spécifiques aux Kohanim, aux prêtres. Et puis après, eh bien, il y a toute une très grande partie de la paracha qui est consacrée à toutes les lois sur les fêtes. On va nous parler du Shabbat et de toutes les fêtes. Elle commence donc de manière assez curieuse, puisque le verset nous dit que Dieu parle à Moshe, lui dit « Emor el Kohanim ben Aaron ve amarta alehem le nefesh lo itama be'ama ». Traduction « Emor el Kohanim, parle au Kohanim, les prêtres ben Aaron, les enfants d'Aaron, ve amarta alehem, et tu leur diras le nefesh lo itama be'ama, entre autres, qu'ils ne peuvent pas se retrouver dans un état d'impureté, etc. etc. » Puis on continue à donner un certain nombre de lois qui leur sont qui sont caractérisés au Kohanim. Alors, évidemment, Rashi sur place s'arrête sur cette, j'ai envie de dire, bizarrerie grammaticale de la construction de la phrase, parce que le texte nous dit « Dis au Kohanim, les fils d'Aaron, et tu leur diras ». C'est d'accord qu'il y a quelque chose ici d'un peu surprenant. « Dis au Kohanim », deux points, ouvrez les guillemets, et puis on continue ce qu'il faut. Voilà. Il doit faire attention aux lois de pureté et d'impureté. Et sur place, Rashi répond et dit le hazir d'olim alaktanim, c'est pour prévenir les adultes pour les enfants. Alors, première lecture, évidemment, c'est pour dire aux adultes d'être vigilants sur ces lois-là en ce qui concerne aussi les enfants. Et évidemment, pour qu'ils aient cette vigilance, eh bien, il y a quelque chose de très simple à mettre en place, c'est qu'il faut le leur apprendre. Et donc, en effet, de prévenir les adultes par rapport aux enfants. Donc, obligation particulière pour les adultes de transmettre aux enfants les lois particulières des Kohanim lorsqu'ils sont Kohanim. Et là, comme vous l'avez évoqué, question évidente, nous avons une obligation de transmission, nous avons une obligation d'éducation. Nous devons en effet donner à nos enfants le savoir de ce qu'ils doivent faire, même si au niveau purement légal de la Torah, ils n'en ont pas l'obligation, mais on se voit mal le jour où la petite fille a 12 ans ou le petit garçon a 13 ans, de leur dire bon, « voilà, tu commences à faire Shabbat, tu fais les bénédictions, etc. etc. » Donc, au fond, pourquoi la Torah insiste-t-elle de manière particulière au niveau des enfants des Kohanim par rapport à leurs lois spécifiques? C'est un petit peu ça, au fond, la question qui se pose. Et j'aimerais ouvrir avec vous la réflexion suivante. On va essayer d'imaginer, au fond, un enfant Kohen, mais qui ne sait pas du tout ce que ça veut dire. Voilà, il sait qu'il fait partie des membres du peuple d'Israël. Je trouve qu'il s'appelle Cohen et puis ça s'arrête là. Et puis un beau jour, donnons un exemple qui n'est peut-être pas très rigolo. Il est là et puis eh bien, il a son meilleur copain qui a perdu son arrière-grand-père, d'accord ? Un vieux monsieur de 98 ans et lui, voilà, c'est son meilleur copain. Et il dit, ben, je veux t'accompagner, voilà, au cimetière, voilà, c'est ton arrière-grand-père. Et là, brusquement, on lui dit, ah, non, ben, tu ne veux pas. Et il dit, mais pourquoi? On dit, ben, t'es Cohen. Alors il est un peu choqué, mais attendez, mais alors quoi, je ne peux pas accompagner l'autre, mais je ne comprends pas, mais c'est quoi cette histoire? Et ça peut être une découverte dans d'autres cadres, au niveau de certaines lois concernant les mariages. Les Cohenim ne peuvent pas se marier avec n'importe qui. Imaginez que la personne qui est Cohen, eh bien, fréquente une personne très bien, mais qui, au niveau de la loi juive, il ne peut pas se marier avec elle, et qu'il le découvre quand il va chez le rabbin, pff, il saute en l'air. et on peut le comprendre. On peut le comprendre et on peut l'entendre. D'ailleurs, j'étais parfois confronté à ce genre de situation et la personne, son premier réflexe, a dit « Bon, alors c'est pas grave, je suis plus Cohen. C'est pas grave, je mets de côté ça et puis tant pis. » Mais et on lui dit « Ben non, on peut pas se débarrasser de sa kohuna. » Évidemment, quand vous avez découvert votre particularité dans ce que j'appellerais une forme de trauma ou dans un moment difficile, vous ne la portez pas de manière très sympathique. Être Cohen à ce moment-là, c'est associé à un souvenir douloureux, à quelque chose dans lequel on dit « t'as pas le droit de t'associer à l'autre, t'as pas le droit d'être à ses côtés dans certains moments, tu peux pas te marier avec… » Oula, c'est difficile. Et j'ai envie, sur la base de ça, de faire une forme de parallèle et d'ouverture, et surtout au regard de ce qu'on vit actuellement dans notre société au niveau de l'antisémitisme. Malheureusement, qui n'a jamais cessé, mais qui est plus visible maintenant, j'ai envie de dire. La parole s'est libérée, on n'a plus peur d'exprimer ce que l'on pense au fond de soi. Et j'essaye d'imaginer cet enfant qui est juif. Voilà, c'est un enfant juif, mais il sait qu'il est juif sans plus et encore. Et encore. Et puis un beau jour, il se confronte à l'antisémitisme. Et là, il découvre qu'être juif, ben, c'est pas si simple. Parce que tout simplement, ben, c'est être victime de quelque chose. Vous imaginez bien que pour lui, c'est pas simple à assumer. Le fait d'être juif, parce que lorsque vous découvrez votre identité et votre particularité à travers une expérience difficile, il y a de fortes chances que vous ayez envie, et c'est normal, de la mettre de côté. Et c'est la même chose aussi, vous savez, quand un enfant juif découvre que la religion juive, ben, c'est une somme d'interdit. Tu veux pas, c'est interdit, c'est très grave, attention, oulala. Il était là, il est tout tranquille, vous savez, voilà, on va imaginer cet enfant qui est là, qui arrive à la synagogue tout content d'y aller, et puis c'est la première fois qu'il y va, et puis quelqu'un lui dit « Ah là là, mais c'est pas bien, c'est interdit, t'as porté, t'as fait ceci, t'as fait cela. » Ouh là là, si c'est ça, ça me fait peur et je vais peut-être prendre de la distance. Et c'est peut-être cette leçon que j'avais envie de partager avec vous ici. C'est-à-dire cette leçon dans laquelle il faut apprendre à nos enfants le dur bonheur d'être juif, pour reprendre le titre de ce livre de Néer, mais mettre d'abord le mot bonheur en premier lieu. Mettre le mot bonheur parce que c'est cela, au fond, qui va être l'élément essentiel. C'est leur faire découvrir la beauté du judaïsme, la beauté d'un Shabbat. Vous savez, c'est intéressant, tout à l'heure, je discutais avec une personne avec laquelle j'étudie, et c'est un juif américain qui passionnant et qui me disait, au fond, vous savez, je remarque beaucoup de gens qui n'ont jamais fait Shabbat, eh bien, quand ils découvrent ce que c'est Shabbat, et surtout si parfois ils n'ont pas vécu vraiment une vie familiale dans l'harmonie, dans le bien-être, dans le contact, dans le lien, eh bien pour eux c'est extraordinaire, parce qu'ils en découvrent les bienfaits dans tous les domaines. Et pour eux c'est génial. Et il dit évidemment, il en est de même pour toutes les autres choses de la Torah. Lorsqu'on les découvre dans une dimension belle et positive, lorsque c'est avant tout la beauté de ce que l'on fait qui est mise en avant, et l'expérience positive de la chose, alors oui, on est heureux, on est content, on est fier, on assume, on est content profondément de cette dimension juive. Et même si par la suite on constate que, eh bien, parfois il y a des exigences, oui, en effet, il y a des choses qui peuvent être interdites, et puis parfois être juif, eh bien, c'est être regardé d'une certaine manière, on l'assume de manière totalement différente, parce que la partie essentielle qui nous nourrit, eh bien, c'est cette dimension-là. C'est ce qu'on dit au fond. Au Kohanim, on dit vos enfants, un jour dans le peuple d'Israël, risquent de découvrir qu'être Kohen, eh bien, c'est aussi des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Ça peut être aussi des choses difficiles. Alors, en amont, travailler d'abord pour leur apprendre qu'ils sont Kohen. Mais être Kohen, c'est pas juste ne pas avoir le droit. C'est avant tout d'être ceux qui ont une responsabilité particulière dans le peuple d'Israël, qui peuvent bénir leurs frères, qui peuvent faire le service dans le temple, qui ont un rôle et un statut tellement particulier. Et c'est vrai que ça crée des exigences, et c'est vrai que ça crée un certain nombre de règles, mais c'est ça, au fond, qu'on va mettre en exergue. Et donc, évidemment, au niveau de la pédagogie de la transmission, j'ai envie de dire, de l'identité juive et de la religion juive, eh bien, c'est cela, au fond, qu'il faut peut-être essayer de faire, parce que de toute façon, à un moment, eh bien, l'enfant découvrira qu'il y a aussi des choses qui sont peut-être un peu moins simples, des choses plus difficiles. Mais ce n'est pas grave, parce que cette difficulté se diluera dans tout le bonheur qu'il a de vivre pleinement la beauté de ce judaïsme.
Ravi Lelemel, avec sous votre contrôle, je vais rappeler une phrase qu'on attribue au Rabbi de Lubavitch. Il dit, quand tu as quelqu'un qui n'est pas vraiment dans les mitzvot, quoi, que tu le reçois à ta table de Shabbat, à une fête. Hein. Et alors, il dit, ne rajoute pas de l'obscurité à l'obscurité. Et c'est très pratique. Plutôt, je veux dire, c'est très concret quand je dis pratique. C'est quelque chose qui se fait de manière pratique. Quand quelqu'un vient, tu vois qu'il ne fait pas les choses. Shabbat, vous disiez tout à l'heure, ouais, ça c'est interdit à porter. Qu'est-ce que tu fais qu'un téléphone à la main, ça ? N'ajoute pas de l'obscurité à l'obscurité, c'est-à-dire ne fais pas des reproches, mets de la lumière. Mets de la lumière, c'est, t'as vu, c'est beau Shabbat, regarde, on est ensemble, on est bien, pour qu'il ait envie de le faire. Et paraît-il que c'est quelque chose qu'on peut faire, y compris dans nos familles, quoi. Et donc, je trouve que c'est un très bel enseignement. Donc, je me permettais sous votre contrôle de le faire partager à nos auditeurs.
Évidemment, et puis je pense que La phrase sied tellement bien à celui qui l'a prononcée.
Rav Eli Lemel, merci. Et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
On part pour Jérusalem où l'on retrouve Rav Mordechai Biton. Bonsoir Rav Mordechai, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom et voir et bonne fête de... Lag BaOmer, bien sûr.
On est à Lag BaOmer.
Rav Mordechai Biton, alors notre paracha, on vient de le dire avec Rav Eli Lemel, concerne les Kohanim, c'est Emor. Et vous dites, alors là il y a vraiment le cœur de tout... de ce qu'est le cœur du judaïsme, de ce qu'est le judaïsme. Transmettre. Essayer de comprendre ce que veut dire transmettre.
Absolument, puisque le premier verset de la paracha s'ouvre sur « Vayomer Hashem el Moshe, Hashem s'adresse à Moshe Rabbeinu, à Moïse notre maître, et mor el ha-kohanim b'nei Aaron. Parle au kohanim b'nei Aaron, les fils d'Aaron, ve'amarta alehem et tu l'ordéras, le nefesh lo yitama, faites attention aux règles de pureté et d'impureté. » Et Rashi s'interroge immédiatement sur la redondance, la répétition. Hachem s'adresse à Moshe et dit, il lui dit la chose, dis aux Kohanim, les enfants d'Aaron, et tu leur diras. Donc il est dit deux fois dans le verset, dis aux Kohanim et tu leur diras. Et alors Rashi vient et dit la chose suivante, il cite le Torah de Kohanim, qui est un midrash, qui est donc un texte qui nous permet de rentrer dans les couches plus profondes du texte, et qui nous dit en fait que cette redondance, cette répétition, vient nous dire Ve'amarta, tu devras dire, mais on veut nous inclure ici que l'on doit dire les choses aux enfants. C'est-à-dire que ce verset vient et nous dit la chose suivante, pour le décrypter de manière plus précise. Hachem s'adresse à Moshe, lui dit, écoute, voilà ce que tu dois dire aux Kohanim. Mais je te répète à deux fois qu'il faut le dire, parce qu'il ne faut pas seulement le dire aux Kohanim qui sont grands, qui sont bar mitzvah ou qui servent dans le Beth Amikdash, il faut aussi dire aux Kohanim qui sont plus petits, qui sont des enfants. Il faut faire attention à transmettre correctement les choses aux enfants des Kohanim, pour qu'ils soient correctement instruits dans ce qu'ils ont à faire. Question que d'autres commentateurs vont poser, mais il y a d'autres endroits dans lesquels on voit que la Torah se soucie de ce qui est enseigné aux enfants. Par exemple, au sujet de Shabbat, il est écrit, c'est le verset, « Ata obincha, toi et ton fils, ou bitra et ta fille. » Et la Gemara nous dit, il s'agit ici des enfants, d'accord, auxquels on va devoir enseigner le Shabbat. Et on impose ici aux adultes une obligation de faire attention à enseigner correctement le Shabbat aux enfants. La même chose pour la sortie d'Égypte. Ve'gata libincha, tu devras enseigner à ton fils. Et le Rambam Maïmonide, au sujet des Ilchot Hametz Matza, les lois de Pessah, nous dit qu'il y a une mitzvah de faire savoir aux enfants, même aux enfants qui ne sont pas les nôtres, ce qu'a été la sortie d'Égypte et ce qu'a été donc l'esclavage égyptien. Autre chose, il y a également une obligation, nous dit Maïmonide, en se basant sur la Gemara dans Kiddushin, en se basant sur un verset qu'on lit tous les jours dans le Kriyat Shema, on a l'obligation, le père a l'obligation d'enseigner la Torah à son fils. Vous voyez donc dans quatre endroits qui sont des endroits clés. Les lois de règles les règles de pureté ou d'impureté pour les Kohanim, le Shabbat, qui est vraiment le signe de la Emouna, de la foi, la sortie d'Égypte, qui est l'acte fondateur du peuple juif, l'enseignement de la Torah, qui est la structure même de la pensée, du comportement de chacun d'entre nous. Dans ces quatre endroits, on nous dit, attention, vous les grands, vous devez enseigner aux petits, et pas seulement aux petits, mais à tout le monde. Et donc, en fait, dans ce verset, on est, comme vous l'avez dit en introduction, très justement, au cœur d'une des règles les plus fondamentales du judaïsme, qui est la transmission. Il faut transmettre. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? En fait, on est en train de nous dire la chose suivante. Il faut transmettre. Très bien, mais comment on fait? Alors là aussi, nos sfarim, nos livres, nous enseignent que l'homme en vérité a trois étages. Et il a un étage qui est celui du cerveau, dans lequel on trouve ce qu'on appelle la chorma, la bina et la da'at, c'est-à-dire la capacité, la chorma, c'est l'intelligence qui permet de comprendre les phénomènes, les autres, ce qui se passe autour de nous, la bina qui est l'intelligence qui permet de décrypter, le da'at qui est le discernement, qui est la volonté, qui est le lien à l'autre, le lien au monde. Il y a au niveau du cœur, ça c'est au niveau du cerveau, au niveau du cœur, il y a chesed, gvura et tiferet, il y a la force, la vigueur, la bonté, le partage, et également la capacité d'harmonie, la capacité de comprendre, d'harmoniser les différentes pulsions, les différentes forces que nous avons en nous. Et il y a au niveau du nefesh, c'est-à-dire la partie basique de l'âme, ce qu'on appelle od, netzar et yesod, c'est-à-dire des forces qui sont des forces qui nous permettent d'agir avec intelligence, d'agir avec bonté, comme Aaron, par exemple, qui était dans le monde de l'action, qui était le grand prêtre, mais qui était dans le monde de l'action et qui savait faire le shalom entre les gens, et le yesod, qui correspond à la capacité que nous avons dans l'action à tenir nos pulsions. Il s'agit de réguler, en fait, toutes les pulsions de plaisir et de savoir les encadrer, de les emmener vers des buts constructifs. Alors, qu'est-ce qu'un homme doit faire? Qu'est-ce qu'un père doit faire? Il doit transmettre à ses enfants d'abord un certain nombre de valeurs, ça passe par le cerveau. Il doit montrer un certain nombre de comportements, ça passe par le cœur, c'est la manière d'agir. Et il doit montrer également comment il est capable de se gérer. En fait, le principe fondamental de l'éducation n'est pas de faire des grands discours aux enfants, c'est qu'en fait, le père, le maître, le rave, l'enseignant soit un exemple. Il doit être un exemple dans sa manière de concevoir les choses, dans sa manière de penser les choses, dans sa manière de les réaliser concrètement, et dans sa manière de vivre, et notamment dans les phases de conflit, dans les phases de douleur, dans les phases de doute, et montrer comment il est capable de gérer ses pulsions, comment il est capable de gérer sa peine, de gérer sa joie, de gérer ses grands élans, on a toujours des grands élans dans la vie, ou tout simplement de gérer le quotidien. Et alors, le livre nous dit la chose suivante, c'est que, qu'est-ce qui se passe lorsqu'un un père ou une mère ou un enseignant ne fait pas son travail? Lorsque finalement, on n'enseigne pas correctement, eh ben, on ne transmet pas les kélim, les ustensiles psychologiques, mentaux, psychiques, spirituels, de fonctionnement à l'enfant, à l'élève. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer quelque chose d'absolument incroyable que nous dit le Harizal. C'est le moment de citer le Harizal et la Kabbalah ici, parce qu'on est maintenant le soir de l'Agba Omer. Eh bien, il se passe que si le père ou l'enseignant ne transmet pas correctement tout ça à l'enfant, l'enfant, eh bien, il est handicapé pour la vie. Mais alors, il y a quelque chose qui va se produire. C'est que si l'enfant ou l'élève est handicapé, le maître ou le parent sera aussi handicapé. Parce qu'il y a, nous disent nos maîtres, une espèce d'interaction entre ce que l'enfant va devenir et les possibilités d'épanouissement qui sont données à ses parents ou à ses maîtres quand il s'agit d'un élève. C'est-à-dire qu'il y a une interaction. Ce n'est pas seulement que l'adulte est en position de pouvoir et toute puissance sur un enfant, il transmet. Non, pas du tout. C'est qu'en fait, en lui donnant les choses comme il faut et quand il faut, et en lui donnant des idées correctes et des manières correctes de fonctionner, en fait, il est payé de retour lui-même par une capacité d'épanouissement. Et alors, tout ça a un rapport avec l'Agba Omer. Pourquoi? Parce que Rabbi Akiva, lui, était littéralement effondré lorsqu'il a vu que ses élèves sont morts. Pourquoi? Parce que Rabbi Akiva avait enseigné « Ve'avta l'ereacha kamocha », tu dois aimer ton prochain comme toi-même. L'amour, c'est l'ustensile de la transmission. Et il a vu qu'avec ses élèves, eh bien, il n'avait pas réussi à transmettre cela. Il avait la même racine d'âme, nous disent nos livres, que ses élèves. Il n'avait pas réussi à faire ce tikkun, cette réparation. Et alors, quel est l'homme qui va le faire? C'est un des 5 élèves que Rabbi Akiva, après la mort de ses 24 000 élèves, va retrouver au sud d'Eretz Israël, qui est Rabbi Shimon Bar Yochai. Et lui, Rabbi Shimon Bar Yochai, il va aller dans la grotte pendant 12 ans, il va en ressortir une année, il va y re-rentrer, puis en ressortir encore une fois. Et là, il va ressortir rempli d'amour pour le peuple juif et pour l'ensemble de la création. Et là, Rabbi Shimon, il va être dit à son sujet, que Kedai ou Rabbi Shimon, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est celui qui vaut le coup parce que c'est celui qui, par l'amour qu'il va dévoiler vis-à-vis d'Hachem, vis-à-vis de sa Torah, mais l'amour qu'il va dévoiler vis-à-vis du peuple juif tout entier, va en quelque sorte, de manière métaphorique, distribuer en quelque sorte des ustensiles à l'ensemble du peuple juif, qui sont des ustensiles d'amour, qui vont lui permettre de recevoir la Torah, et donc en retour de choses, lui-même va être sanctifié, va être élevé par cette force-là. Alors, même si tout cela apparaît mystique tel que c'est dit, il faut savoir que le monde dans lequel on vit est un monde physique, c'est un monde dans lequel se jouent des phénomènes psychologiques, des phénomènes énergétiques, mais aussi des phénomènes spirituels. Lorsque, sur le plan spirituel, on se remplit de bienveillance à l'égard des autres, on essaye de comprendre leur histoire, on se remplit de c'est ce que nous disent nos chers, et vous, mais tout banim, soyez un petit peu circonspect, prenez du temps avant de juger, prenez du temps avant de vous battre les uns les autres, etc. Essayez de comprendre un petit peu la position des gens. Remplissez-vous d'amour à l'égard des gens, les uns à l'égard des autres, de bienveillance. Essayez de comprendre un petit peu l'histoire des gens, dans les couples, dans les familles, dans les communautés. Essayez de comprendre un petit peu. Vous allez vous remplir de cette capacité, de cet ustensile qui est un ustensile de lien, et vous serez payé en retour par une capacité à vous épanouir. Et donc, aujourd'hui, on est à l'Akba Omer. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est celui qui a permis, en quelque sorte, de faire advenir la Torah de Rabbi Akiva. Ce que Rabbi Akiva enseignait, « Ve'avta l'erecha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, zekal gadol batorah », c'est un grand principe de la Torah. Ça n'a pas marché avec ses élèves, mais ça a marché avec ses 5 élèves, dont Rabbi Shimon Bar Yochai. Et ensuite, après, la Torah a pu redémarrer grâce à Rabbi Shimon Bar Yochai. On a découvert le Zohar, les profondeurs de la Torah, et donc tout est reparti grâce à ça. Et là, c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui à l'Akba Omer. Il faut préciser que cette mathématique spirituelle aujourd'hui, elle est à l'œuvre le jour de l'Akba Omer, et c'est le jour où toutes les portes du ciel sont ouvertes. C'est un jour de prière, c'est un jour où on peut tout demander, c'est un jour où on peut prendre des engagements, c'est un jour où on peut grandir, et tout simplement en se référant à l'enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est rapporté très largement dans le traité Shabbat, à partir de la page 13, et également en lisant quelques textes du Zohar, donc en se rapportant à ce texte que Rabbi Shimon Bar Yochai a dévoilé. Voilà l'enjeu aujourd'hui de l'Akba Omer, et voilà l'enjeu de cette paracha, qui sont des enjeux très, très concordants. Alors à toutes et à tous, Shabbat Shalom, et qu'on puisse pleinement profiter de ce jour pour grandir et nous éveiller à la bonté, à la compassion l'un vis-à-vis de l'autre, et aussi à l'amour de la Torah, et s'accrocher à cet enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai, et qui nous permet de grandir à la fois sur le plan spirituel, évidemment, mais aussi sur le plan psychologique et sur le plan de la relation à l'autre, ce qui est fondamental.
Eh bien, en tout cas, on sait qu'on s'élève à chaque fois qu'on vous écoute, tous les vendredis après-midi sur Radio Shalom. On va essayer de méditer un peu ce que vous venez de nous dire. J'ai bien compris, en étant bienveillant avec l'autre, on se permet de s'épanouir. J'ai entendu, je ne voudrais pas refaire à votre place, mais j'ai bien entendu ce que vous nous disiez. Rav Mordechai Biton, je vous remercie. Bonne fête de l'Akba Omer et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Et nous sommes en ligne avec Maria Chadret. Bonsoir Maria Chadret. Shabbat Shalom.
Bonsoir. Shabbat Shalom et bonne fête.
Bonne fête. On va parler effectivement, on va faire une petite incursion du côté de l'Akba Omer aujourd'hui. On sort un peu de la paracha. Et d'abord, j'ai jamais su. On dit Chag Sameach pour l'Akba Omer, non hein.
Alors, c'est pas un chag, mais ouais. C'est une très très grande fête. Hein. C'est une fête qui mérite toute son attention.
Et c'est de ça que vous voulez parler ce soir.
Exactement. Et alors, en plus, vous allez être étonnés parce que je ne sors pas tellement de la paracha, puisqu'on a une belle allusion du Khatam Sofer dans la paracha de cette semaine à ce qui se passe, à l'enjeu de l'Akba Omer. Alors, Bernard, qu'est-ce que vous connaissez, vous, de l'Akba Omer
un centième de ce que vous savez. Donc, moi, je dirais Rabbi Shimon Bar Yochai. Du feu, couper les cheveux des enfants et manger des grillades.
très bien.
Bon voilà. Alors, et la fin de l'épidémie. Alors,
c'est ça. Alors, la fin de l'épidémie, tout à fait. Donc, en fait, les mariages peuvent reprendre. Hein, déjà, on peut écouter de la musique, ce qui est déjà une très bonne nouvelle. C'est en effet le jour de la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc, d'ores et déjà, j'invite tous nos auditeurs, si ce n'est pas déjà fait, à allumer une très belle flamme en l'honneur de Rabbi Shimon. Et c'est vrai qu'on a l'habitude de faire ce qu'on appelle en Israël des médourot, donc des grands feux, et de chanter et de se réjouir autour de ces feux. Alors, quel est le symbole? Alors, je vous disais tout à l'heure, le Khatam Sofer nous parle déjà d'un premier symbole de l'Akba Omer dans la paracha de cette semaine. Vous savez que c'est la paracha Témor qui relate, c'est la paracha des Moadim, donc de toutes les fêtes juives. et notamment de la fête de Shavuot qui arrive, qui a une particularité, c'est que bien sûr, c'est un moed, c'est un rendez-vous. Quand on a un rendez-vous, il nous faut un lieu et une date. Nous avons un lieu, le Temple de Jérusalem, nous n'avons pas de date. Vous savez, voilà, Shavuot n'a pas de date dans la Torah. La seule date qui est écrite, c'est que vous compterez 49 jours après Pessah. Il y a 49 jours, 7 fois 7 jours de compte, et puis on a ce rendez-vous donc de Shavuot au Temple. Et dans ce verset qui dit « Usfartem lachem », donc l'ordre de compter le Homer, vous compterez pour vous cette semaine, il y a écrit comme ça « À partir du jour, miyom aviachem et Homer at Ténoufa. À partir du jour où vous amènerez le homer, vous savez que le homer c'est une quantité de volume, c'est un volume d'orge qui était amené en offrande le lendemain du premier jour de Pessah, donc le deuxième jour de Pessah. Eh bien, dit le Khatam Sofer, le nombre de lettres qu'il y a dans ce verset, du début du verset jusqu'au mot homer, c'est 33 lettres précisément. Et pourquoi précisément à l'endroit du mot homer? Parce que, eh bien, le Homer, c'est un volume qu'on connaît bien, c'est le volume de la manne. Quand la manne est tombée donc, dans le désert, après que les Béné Israël, les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, chacun recevait un Homer de manne. Et donc, il y a ici une allusion très forte à la manne. Et dit le Khatam Sofer, eh bien, ce n'est pas un hasard. Sachez qu'avant que Rabbi Shimon ne décède et dévoile les secrets de la Torah, hein, et c'est ça le symbole du feu, c'est l'intériorité de la Torah, la Kabbalah, la Torah des secrets, qui est dévoilée le jour de l'Akba Omer. Eh bien, la première chose qui s'est passée le jour de l'Akba Omer, c'est la manne qui est tombée. Alors, on se rappelle, ils sont sortis d'Égypte rapidement avec une quantité de matzot. Ils en ont eu assez pour un mois. Au bout d'un mois, les provisions sont terminées. Pendant 3 jours, bah, ils essayent de faire avec, de grignoter ce qui reste. Et puis, au bout de 3 jours, on est exactement le 33e jour du Homer. Dieu fait tomber la manne pour la première fois pour les Béné Israël. Alors, il y a une symbolique très forte. Parce que la manne, c'est, dans le texte biblique, c'est l'Echem min ha-shamaim, du pain du ciel. Un pain du ciel, c'est un pain spirituel. Vous savez, c'était un pain qui n'avait aucun problème digestif, aucun déchet avec ce pain. Donc, c'est plus un pain qui remplit spirituellement. Bon, certes qu'il est nourrissé aussi. Eh bien, en fait, c'est ça l'enjeu de l'Akba Omer. C'est que ce jour-là, pardon, il y a une abondance extraordinaire. Les portes du ciel sont ouvertes. Ce jour-là, Rabbi Shimon a eu l'autorisation de dévoiler ce qu'on appelle la Torah des secrets, c'est-à-dire le 4e niveau de lecture de Torah. Alors, quand Moshe a reçu la Torah au Sinaï, il a reçu la totalité de la Torah, mais seule la partie dévoilée nous a été accessible. Et un jour, Rabbi Shimon Bar Yochai peut dévoiler cette Torah. D'ailleurs, Rabbi Shimon est écrit en allusion dans le premier mot de la Torah. Vous savez que le premier mot de la Torah, Bereshit, eh bien, ce sont les lettres de Or Torah Rashbi, c'est-à-dire Or, la lumière de la Torah de Rashbi. Aleph Tav et Rashbi, ça fait les lettres de Bereshit. Donc, dans le mot de Bereshit, on nous avertit, sachez que dans cette Torah, il y a ce que vous lisez, il y a de l'encre noire sur un papier, sur un parchemin, mais au-delà de ça, il y a une lumière cachée, celle que Rabbi Shimon Bar Yochai nous a dévoilée. Alors, on disait que c'était le jour où la manne a commencé à tomber. Alors, je voudrais dire un mot tiré du Shvile Pinchas, de Rav Pinchas Friedman. Il cite quelque chose de magnifique. Il cite Rabbi Menachem Mendel de Riminov, qui dit que quand ils ont mangé la manne le premier jour, alors ils se sont dit l'un à l'autre, « Ah, bah, c'est manhu. Manhu, ça veut dire, mais qu'est-ce que c'est ?» Donc, la manne, c'est du « qu'est-ce que c'est ?» J'ai l'habitude de traduire comme ça le mot « manne ». Et en fait, dit Rabbi Menachem Mendel, pas du tout. En fait, ce qui se passe ici, c'est qu'ils se sont dit « qu'est-ce que c'est l'un à l'autre ?» C'est-à-dire que tout d'un coup, ils ne se reconnaissaient plus l'un l'autre. Le fait d'avoir mangé de la manne a fait qu'en voyant leur frère, leur ami, tout d'un coup, ils le voyaient avec un regard tellement pénétrant, tellement profond, tellement spirituel, qu'ils ne voyaient plus l'aspect extérieur, l'aspect écorce d'une personne, tous les parasites d'un individu, mais ils voyaient vraiment l'intériorité. Et du coup, ils ont été émerveillés. Tiens, mais qu'est-ce que c'est? Et alors, c'est ça l'enjeu de l'Akba Omer. C'est ce jour-là de se remplir d'une vision beaucoup plus profonde de notre vie, de nos talents, de nos potentiels, de nos amis, de nos proches, avec ce pain céleste qu'on reçoit, pour ainsi dire. Céleste, d'ailleurs, je finirai avec ça, un pain du ciel. Vous savez, le ciel, Shamaïm, c'est la contraction de deux mots. du mot Esh, le feu, et Mayim, l'eau. Et il faut savoir que la Torah est comparée à la fois au feu et à la fois à l'eau. Alors, à l'eau, parce que l'eau va du haut vers le bas et qu'il faut être dans une posture d'humilité et de réceptivité pour la recevoir, mais aussi au feu, parce que le feu va du bas vers le haut, donc il y a un désir d'élan vers le haut, il faut être enflammé, pour ainsi dire. C'est-à-dire qu'il y a deux postures d'une personne face à la Torah. La première posture, c'est l'apprenant. C'est ce qu'on fait dans votre émission merveilleuse, cher Bernard.
Grâce à vous.
Tous les vendredis, eh bien, on apprend. On est là, on reçoit, on écoute, on se remplit, on apprend. Et pour ça, il faut ne pas avoir trop de hauteur. Mais il y a une deuxième posture, je dirais, c'est l'élan. C'est être emballé, ou même, je dirais, être enflammé. Je me permets de dire être enflammé aujourd'hui, le jour de Rabbi Shimon, parce que c'est ça, finalement, qu'il nous donne. Il y a eu un premier dévoilement quand il a appris la Kabbalah par Eliyahu HaNavi dans sa fameuse grotte, quand il se cachait des Romains. Et puis ensuite, il y a eu l'étape du Harizal, qui a mis par écrit le Zohar HaKadosh. Et puis ensuite, on a eu le Baal Shem Tov et la Chassidut. Et la Chassidut nous a appris, alors vous savez, moi, d'origine et d'éducation, j'ai une éducation complètement lituanienne, stricte, ashkenaz, enfin stricte dans le sens, vraiment, ce qui est écrit est écrit. Analysons les faits, analysons le verset. Et avec les années, et avec les besoins de mes frères, de mes sœurs, du monde qui a soif de Torah, j'ai découvert la Chassidoute et je me suis littéralement enflammée. C'est ça le feu de l'Agba Omer. C'est de voir qu'au-delà des mots qui sont écrits dans la Torah, il y a ce hesh, il y a ce feu, il y a cet emballement, il y a cette énergie vitale, il y a cette nourriture intérieure qui nous met en mouvement, qui nous donne la force d'aller de l'avant, de faire des choses qu'on n'imaginait pas pouvoir faire. Et voilà, pour vous donner l'exemple le plus récent que j'ai en tête, c'est une jeune fille qui m'a appelée il y a 2 jours, qui a commencé à peine il y a quelques semaines à écouter les cours que je podcaste. Et il y a une semaine, elle me dit « Écoute, ça y est, je veux t'annoncer que j'ai arrêté de manger du porc et j'aimerais que ma cuisine soit cachère. » Ben, j'ai été émerveillée de cette énergie pour une personne qui n'a pas du tout grandi dans un monde de Torah, dans un monde de flammes, etc. Elle s'est enflammée toute seule, pour ainsi dire, et elle a voulu se reconnecter à ce qu'elle est, à la profondeur, à l'authenticité de sa neshama. Et finalement, eh bien, c'est ça ce que Rabbi Shimon nous donne. C'est une énergie vitale extraordinaire, un désir de connaissance, un désir d'aller au-delà de ce qui est écrit. Nous avons tous un secret en nous, un talent qu'on n'imagine pas, un amour de la Torah qu'on n'imagine pas, un potentiel qu'on n'imagine pas. Et le jour de l'Agba Omer, il y a vraiment des énergies spirituelles dans le monde qui nous permettent de dévoiler nos forces, de dévoiler notre identité la plus profonde, la plus sincère, la plus réelle, et de décoder ce secret qui se trouve à l'intérieur de nous par la Torah des secrets de Rabbi Shimon.
Magnifique. Alors moi, je vais vous souhaiter 2 choses. D'abord, Shabbat Shalom. Et je vais vous souhaiter qu'on sorte tous de cette épidémie. Que le srout, comme on dit, de cette journée, des bougies qu'on va allumer, pour ceux qui n'ont pas encore pensé, grâce à vous, on va y penser maintenant. Et qu'on sorte tous, cette fois-ci, de l'épidémie. Maya Chadré, je vous remercie. Bonsoir à vous. Et Shabbat Shalom.
Très, très belle flamme de Rabbi Shimon pour tout le monde aujourd'hui.
Amen. Et on retrouve à présent une histoire pour Shabbat qui vous est présentée par Raphaël Kleinman.
Bonjour à tous, on se retrouve pour notre chronique une histoire pour Shabbat. Un jour, il y a un rave qui doit aller d'un endroit à un autre et donc il prend un taxi qui est un juif mais pas du tout religieux. Et il commence à parler avec le Rav. Il dit « Ah, Rav, d'ailleurs, j'ai une histoire pour vous extraordinaire, vous allez adorer. » Il dit « Ah, allez-y, racontez-moi. » Il dit « Un jour, j'étais en randonnée en Israël avec une bande d'amis et parmi nous, il y avait un très religieux. On allait, on s'est promené et on a décidé de camper là-bas, dans le désert, pendant la randonnée. On a campé durant la nuit et à un moment... Je me réveille en sursaut en entendant un ami crier. On se réveille tous, on commence à regarder qu'est-ce qui se passe, et là on voit que un des nôtres s'est fait enrouler totalement par un serpent. Tout le monde commence à s'affoler. Moi j'étais le chef de groupe, j'avais un revolver sur moi pour pouvoir protéger au cas où mes amis, donc je commence à le dégainer, à être prêt pour pouvoir tirer sur le serpent, mais il enroule mon ami, et si je ratais d'un millimètre, Chas v'shalom, je risquais de l'abattre. Donc je commence à viser, mais tout bouge. Et là, mon ami religieux, il m'a dit, attends, avant de tirer, j'ai quelque chose. Il dit, dis-moi. Il va à côté de l'homme entouré du serpent et lui dit, répète après moi. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Il répète cette phrase, et dès qu'il dit le mot Echad, le serpent, il se retire de lui et il s'en va. Donc tout le monde dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as fait ça? Il dit, c'est simple, en disant cette phrase, ce juif qui n'est pas religieux, il est considéré comme ayant retourné à la religion et donc Dieu l'a sauvé. Donc pour revenir au point de départ, le chauffeur de taxi, il dit au rave après lui avoir raconté cette histoire, vous voyez à quel point c'est extraordinaire, c'est fort, hein? Le rave, il regarde, il dit, dites-moi, vous êtes religieux? Il me dit, moi, non, pas du tout, c'est à peine si je crois en Dieu. Je dis, comment ça? Vous avez vu un miracle manifeste sous vos yeux, comme quoi le serpent s'est retiré juste parce que l'homme a dit une phrase, et vous ne croyez pas en Dieu, alors que vous êtes d'accord que c'est un miracle, vous m'avez même raconté l'histoire pour ça. Il dit, oui, mais c'est pas pour moi. Et là, on voit dans la paracha de la semaine, la paracha est morte, il y a marqué, vous compterez le homer, qui est une sorte de dîme, pour vous. Où est-ce qu'il y a marqué pour vous? On sait qu'il n'y a jamais de mot en plus ou en moins dans la Torah. Pour vous, ça veut dire que chaque chose qu'on fait, on doit le faire pour nous et pour le ressentir. On ne fait pas juste pour Hachem. Chaque chose qu'il nous donne, c'est pour nous. C'est comme Shabbat. On se dit, Shabbat, j'ai pas le droit d'utiliser l'électricité, je peux rien faire, c'est antipathique, ça dure 24 heures et tout. Non, Dieu, il nous a donné le Shabbat pour nous, pour qu'on le ressente, pour qu'on puisse se reposer, pour qu'on puisse se délecter, se couper du monde. Et quand on le ressent, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais il faut le ressentir. On voit manifestement autour de nous des miracles sans arrêt. Voir rien que le fait que notre cœur y bat sans arrêt, le corps humain, à quel point c'est miraculeux, comment ça marche, qu'on puisse se lever tous les matins, marcher, parler, discuter, réfléchir, avoir une conscience, contrairement aux animaux par exemple. Mais ça, même si on voit les miracles autour de nous, la plupart du temps, malheureusement, on ne reconnaît pas Kadosh Baruch Hu et on n'est pas religieux pour autant. C'est pour ça que dans la paracha, il y a marqué pour vous. Chaque chose qu'on fait, on doit le ressentir et savoir que c'est grâce à Kadosh Baruch Hu, mais à Kadosh Baruch Hu, il nous donne tout ça, surtout pour nous. Shabbat shalom à tous.
Voilà, c'était une histoire pour Shabbat qui vous est présentée par Raphaël Kleinman. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Shabbat shalom et je vous retrouve pour un journal enregistré à 18h. Shalom leivoy naboy, Hashem lo yishmarich, Shav shokat shoy mai, Hashem lo yine bayis. Shalom leivoy naboy, Hashem lo yishmarich, Shav shokat shoy mai.